pourquoi se contenter d'une simple dose quand on peut avoir un double expresso? Jusqu'à 9h avec Sheila Fournier et Francis Letourneau.
Et tout de suite, on s'en va joindre notre collaborateur du mercredi matin, un de nos collaborateurs du mercredi matin, c'est-à-dire M. Michel Merlot. Bonjour, M. Merlot.
Oui, bonjour. Comment allez-vous ce matin?
Très bien, merci très beaucoup. Bien. M. Merlot, écoutez, il y a plusieurs choses qui ont retenu votre attention. Nous irons donc rondement. Vous vouliez parler du rapport Rouleau, là. Est-ce qu'on est bien au convoi de la liberté là-dessus, là?
Exactement.
OK,
exactement.
Parfait.
Oui, bien, c'est ça, sur la scène nationale à Ottawa, on peut passer sous silence et sans commentaire la sortie du rapport du juge Paul Rouleau sur la pertinence des mesures d'urgence décrétées par le gouvernement fédéral et le premier ministre Trudeau pour mettre fin aux manifestations du convoi de la liberté et de l'occupation du centre-ville d'Ottawa et de quelques postes frontaliers stratégiques en Ontario et en Alberta en janvier 2022. Selon moi, il fallait s'attendre à la conclusion que Justin Trudeau avait raison d'avoir recours à cette mesure d'extrême de la loi sur les mesures d'urgence pour régler une situation hors de contrôle et potentiellement explosive. On n'aurait jamais dû se rendre là, ça on l'a entendu souvent, et je pense que normalement, on n'aurait pas dû se rendre là. On aurait pu régler le problème de l'occupation du centre-ville d'Ottawa autrement, mais on ne l'a pas fait. C'était pourtant une catastrophe annoncée, mais les forces de l'ordre, dont la police d'Ottawa, et certains politiciens, dont le premier ministre Doug Ford de l'Ontario, ont minimisé la détermination des camionneurs et des organisateurs des manifestations. C'était le chaos. Il fallait agir avec force et détermination, et c'est ce que le premier ministre a fait. Au grand mot, les grands moyens. Le juge Rouleau n'y est pas allé à la légère en entendant plusieurs centaines de personnes et en consultant des milliers de documents, de courriels et autres échanges entre corps policiers, politiciens et hauts fonctionnaires. Son rapport est bien documenté et oui, Trudeau avait raison, mais pas sur toute la ligne.
Okay.
Mais l'important maintenant, c'est de savoir si les corps policiers, politiciens et hauts fonctionnaires de ce monde ont appris des leçons de ces événements de 2022 pour éviter qu'ils ne se répètent à l'avenir. A-t-on un plan d'intervention qui prévoit, entre autres, un partage d'informations entre les intervenants concernés, notamment la police? Le juge Rouleau a formulé 56 recommandations. Qu'en adviendra-t-il? Maintenant, sur la scène provinciale,
oui.
Il y a deux sujets qui ont attiré mon attention, entre autres l'ajout d'un congé férié pour marquer la journée de la famille.
OK, oui.
Et la baisse des impôts des particuliers. Le Québec serait, selon plusieurs experts, en déficit de productivité comparativement à d'autres États. Et l'ajout d'un congé payé n'a rien pour améliorer cette situation. Déjà, content de prouver que la semaine de 4 jours est plus productive qu'une semaine de 5 jours. Les arguments pour un ajout de congé ou une semaine de travail réduite, au même salaire, bien sûr, sont nombreux et valides jusqu'à un certain point. On parle de la conciliation travail-famille, on parle de santé mentale, etc. Selon moi, pour que 1 plus 1 continue à faire 2, on ne peut pas juste réduire les heures de travail et espérer obtenir les mêmes résultats. Mmh. Il va falloir qu'on change d'outil, qu'on améliore notre façon de travailler pour devenir plus productif avant d'avoir recours à des semaines réduites de travail ou à des congés sériés payés. Quant à la baisse d'impôts annoncée par le ministre des Finances du Québec, elle n'est pas nécessaire ni justifiée, selon moi. Les jeunes ont raison de s'élever contre cette mesure électoraliste annoncée, car malgré cette baisse d'impôts qui équivaut à 2 milliards de dollars par année, le gouvernement de la CAQ va continuer à dépenser en pelletant par en avant pour les générations futures les coûts rattachés à des soins de santé et à un système d'éducation plus performant, à un réseau routier amélioré, etc. Il est important aujourd'hui de penser à demain. On en demande toujours plus à nos politiciens et on oublie qu'à un moment donné, il faut payer pour. Et finalement, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que vendredi, Ça va faire déjà un an que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Alors ça, c'est un autre sujet qui est potentiellement explosif. Mais ça, on verra comment ça va se passer. Voilà, c'était mes commentaires pour cette semaine.
Oui, on a vu que M. Poutine n'a pas l'intention de lâcher le morceau, qu'il veut continuer, en fait, cette offensive militaire et qu'il demande de l'aide et que les pays qui veulent l'aider, ce n'est pas nécessairement les peuples les plus en paix, disons. Hein? On peut dire ça comme ça. Ce sont des gens qui ont l'arme nucléaire un petit peu facile. Donc, ça sera très certainement à surveiller. Il y aura commémoration. On va souligner de toutes sortes de façons là, le début de ce conflit. Vous avez bien raison, M. Merlot. Merci de nous faire réfléchir à ces questions brûlantes de l'actualité. Et on va vous retrouver avec énormément de plaisir la semaine prochaine.
Bien, merci beaucoup et bonne semaine à tous.
Merci beaucoup.